Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Le Pied dans la Porte. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons Marie-Ly Lapointe qui va nous parler du musée de Charlevoix, le musée sur la route, un projet intergénérationnel, donc où le musée de Charlevoix va à la rencontre des jeunes et des aînés directement dans leur milieu. Ensuite, nous aurons avec nous Philippe Ducrot, auteur et metteur en scène de la pièce Chambre d'écho à espace libre qui a démarré hier et qui a lieu jusqu'au 4 mars. Et puis, nous aurons la chronique de Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu, notre technicien.
Ça. Bonjour.
Qui s'appelle Accroche ta tuque. Et maintenant, on part en musique avec Fred Pellerin qui nous chante Le musée du jamais vu.
1, 2, 1, 2, 3. C'est le que c'est ça, c'est le musée. Mais c'est le pourquoi que c'est ça, c'est pour le jamais vu. Ah ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Y'a le fossile d'une belle femme avec la queue d'un poisson. Y'a un cheval à talons hauts qui trotte et puis qui trotte à reculons. Y'a une paire de siamoises qui veut pas décoller. Une qui fume et puis l'autre qui passe son temps à tousser. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi donc. Jamais vu, ah ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Y'a un bessec à pédale pour rouler sur des œufs à la coque. Y'a une machine pour exaucer tous les vœux qui disloque. Y'a le squelette au complet de l'homme à rayon X, le bouchon pour le drain de l'océan Atlantique, une pelle à deux manches pour les travaux forçants. Y'a un arbre à éléphant, y'a un cyclope qui louche, ben voyons donc, des lunettes pour les mouches. C'est le que c'est ça, c'est le musée de la Bourgogne. Pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. Ça tient sous des cloches de verre, dans des bouteilles d'informel. C'est piqué sur des panneaux de Liège, ça nous demande qu'à y croire. Y'a l'aurore boréale, y'a un collier de rire, y'a une balayeuse qui danse dans la poussière d'avenir. Des longs rubans de temps, des enfants de mille ans, une cage sans barreaux, avec la liberté dedans. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi que c'est ça, pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi que c'est ça, pour le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu. C'est le que c'est ça, c'est le musée, c'est le pourquoi que c'est ça, c'est le jamais vu, ben voyons donc, c'est le musée du jamais vu.
Alors, on le répète toujours avec plaisir, le musée du jamais vu par Fred Pellerin. Et maintenant, on est en ligne avec Marie-Ly Lapointe. Bonjour Marie-Ly.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ben, ça va très bien. Je suis très contente de commencer avec cette chanson-là.
c'est à notre technicien Mathieu que nous la devons. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à Jules. Alors, parlons-nous un petit peu du musée sur la route. C'est un projet génial.
Oui, alors le musée sur la route, en fait, comme vous le disiez à l'entrée, là, c'est un projet qui est intergénérationnel. Alors en fait, c'est qu'on propose, on apporte des artefacts dans les CHSLD, c'est mon point de départ. Alors j'apporte 20 artefacts aux gens dans les CHSLD et je leur dis que moi j'ai déjà une base avec ces objets-là, je sais à quoi ils servent, mais moi je veux les anecdotes derrière ces objets-là.
Ah oui.
Et c'est eux qui ont les anecdotes, c'est eux qui ont travaillé puis qui ont vécu avec ces objets-là. Et je leur dis que, dans le fond, eux, ce sont mes professeurs d'histoire. C'est mon équipe.
Alors,
on travaille ensemble.
Ce qui est absolument génial, c'est quand on nous dit que plus on vieillit, plus il faut faire travailler la mémoire pour rester en vie et en lien. Alors, ça doit être sensationnel parce que tous ces artefacts ont une histoire et dans ce qu'ils ont vécu, ils ont dû vous raconter des choses qui sont... plutôt passionnante.
Plutôt passionnante, et il y a des gens qui me disent hey, « ça fait 60 ans que je n'ai pas pensé à ça, mais je me rappelle plus ce que j'ai mangé pour souper hier.
» Comme quoi, des fois, c'est vrai qu'il paraît que la mémoire à long terme reste plus longtemps que la mémoire immédiate.
Oui, si puis ça leur fait du bien aussi, hein, parce que eux, des fois, ils viennent en même temps en mode, parce que l'autre fois, je pense à une dame de 86 ans, c'était son anniversaire quand je suis allée faire l'activité. Puis là, elle me dit, tu sais, moi, avant, j'étais avec mes parents, je les aidais, j'étais utile. Puis aujourd'hui, je ne sers plus à rien. Je suis avec juste des personnes âgées. Je suis rendue une vieille qui ne sert plus à rien. Puis là, j'ai dit, ben non, parce qu'avec cet atelier-là, vous allez pouvoir être utile avec moi. Vous êtes une équipe. Vous êtes l'enseignante pour les personnes, pour les enfants. Puis là, vraiment, en plus de se rappeler des vieux souvenirs, ils se sentent utiles.
C'est mais oui.
Sur la route.
Et puis, c'est merveilleux de transmettre.
Oui, puis c'est ça. Ça leur fait vraiment du bien. Puis quand je l'ai dit d'entrée de jeu à chaque atelier aux aînés, vous êtes mon équipe. Ce que vous allez me dire, je le rapporte aux écoles. Mais ils sont vraiment contents. Là. Ils comprennent que c'est pas juste une activité de loisir au même titre que le bingo. Là. Ils comprennent que c'est vraiment pour. Ils sont utiles. J'ai besoin d'eux, en fait.
Oui. D'abord, je vais reprendre un petit peu en arrière. Comment vous avez eu cette idée? Comment ça s'est passé, ce projet?
Bien, à la base, c'est une éducatrice spécialisée du CIUS ici à la Malbaie qui m'a appelée en me disant, bien, moi, mes personnes, ils ne peuvent pas venir à ton musée parce qu'ils ont trop de problèmes physiques. Ah. Est-ce que c'est possible d'apporter des objets? Puis moi, j'ai dit, bien, on va essayer. On n'avait jamais fait ça. On a commencé comme ça, puis je me suis rendu compte de la richesse. C'était pas juste moi qui présentais des objets, c'était vraiment, il y avait une interaction. Les gens embarquaient, les gens me disaient des choses, me parlaient de leurs parents, de leurs grands-parents, puis en même temps, on se rendait compte qu'ils me parlaient de l'histoire de Charlevoix.
Oui.
Puis je me suis dit, on a vraiment une piste intéressante, puis avec ça, il faut vraiment qu'on aille faire expliquer l'histoire de la région dans nos écoles, mais en sortant des livres d'histoire plates avec plein de dates que personne ne se rappelle.
Est-ce qu'il est vrai? Enfin bon, il y en a qui ont la mémoire pour ça, mais les dates, je me rappelle comme ça a été difficile pour moi de toutes d'en apprendre un maximum. Donc, excellente idée parce que ça fait du bien à nos aînés et en même temps, c'est la continuité pour l'apprentissage des enfants, pour leur histoire aussi. Donc, après, vous sélectionnez plusieurs écoles qui vont de... Ça va de quel âge à quel âge, ceux qui reçoivent ça?
Ben moi, je commence avec la maternelle 4 ans.
Ah!
Oui, quand même.
Ah,
avec la pandémie, moi, je suis allée jusqu'à l'école, avec la pandémie, avec le mode virtuel, j'ai joint même les cours aux adultes.
Alors, ah, fantastique!
Mais habituellement, c'est vraiment l'école primaire au complet. Avec la pandémie, j'ai eu aussi les jeunes du secondaire avec des troubles d'apprentissage, les cours aux adultes, mais habituellement, c'est vraiment plus le primaire. Et moi, je fais de Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Saint-Siméon, donc la région au complet de Charlevoix.
Oh, donc, je trouve ça une idée, écoutez, vraiment extra. Comment ils prennent ça, les enfants? Les enfants ont un naturel désarmant. Ils sont pas comme nous, bloqués par des tas de choses. Donc, comment un enfant de 4-5 ans réagit à toute cette histoire?
Bien, ils aiment ça parce que déjà, on le fait de façon très, très informelle. On s'assoit en rond, puis les enfants peuvent toucher les objets. Hein,
ah oui, ça, c'est bien.
Déjà, en faisant ça... C'est peut-être pas tous les objets, là, parce que j'en ai qui sont assez anciens, qui sont assez fragiles. Donc, moi, je les prends avec des gants de coton. Mais il y a d'autres objets qu'eux peuvent toucher. Par exemple, ça va avoir l'air vraiment... c'est spécial, mais un téléphone à cadran. Moi, ma grand-mère, elle avait ça en 90.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est très tendance. On voit parfois sur, mettons, je veux pas les nommer, mais les réseaux sociaux, où ils mettent un téléphone à cadran devant deux adolescents, puis ils leur disent, c'est comme un concours... composer un numéro de téléphone et tu vois les enfants vraiment chercher. Moi, j'ai 45 ans, puis ça fait pas si longtemps que ça existait. Fait que déjà, en quelques années, la technologie change tellement que les jeunes de nos jours, des fois, ils ont absolument aucune idée. Une cassette VHS, des fois aussi, ça peut être surprenant.
Comment ça fonctionne. Puis à date, là, je pense que j'ai vu 300 élèves. Il y en a environ une ou deux qui ont réussi à vraiment faire, à composer. Là, juste prendre le combiné, là, étape numéro 1, il y en a plein qui oublient cette étape-là.
C'est vrai, ça fait rire. En même temps, c'est quand même un petit peu désolant qu'on oublie si vite, non?
Oui, c'est ça. Puis en même temps, moi, je trouve qu'on a vraiment des choses à leur apporter. C'est pas juste parler de l'histoire. Je leur fais aussi réfléchir au fait qu'aujourd'hui, on veut tellement sauver la planète, mais en même temps, on consomme des objets de plastique qui cassent. Alors
oui.
Que nos ancêtres, eux, fabriquaient leurs propres choses. Par exemple, une Catalogne, c'est du zéro déchet. On jetait rien. On récupérait les guenilles en lambeaux. On les découpait pour en faire des couvertures. Les jouets des petits garçons, parce que j'ai un lance-pierre qui est fait à partir d'une branche en forme de Y. Puis les messieurs me disaient qu'ils récupéraient des tripes de vélo pour faire l'élastique, puis qu'ils fabriquaient eux-mêmes leurs lance-pierres. Alors, c'est des choses comme ça qu'on peut récupérer. Allez prendre des conseils de vos ancêtres sur comment eux autres, ils pensaient pas que c'était pour sauver l'environnement. À l'époque, c'était parce qu'on n'avait pas assez de sous. Mais on peut prendre ces conseils-là puis les mettre à la saveur d'aujourd'hui. Puis on va être plus écologique en se fiant à ce que nos aînés peuvent nous dire.
Tout à fait, tout à fait. Avant de se précipiter vers une poubelle pour jeter, qu'est-ce que je peux faire de ça? Voilà. Mm-hmm. C'est quand même une très bonne chose. Et les enfants doivent être enchantés.
Les enfants adorent ça. Et puis, je leur fais montrer aussi à quel point nos gens travaillaient très, très fort. Exemple, avec un joug là, qui embarque sur les épaules. Là, c'est comme une espèce de bout de bois qui servait à transporter les seaux. Au bout du bout de bois, là, on avait des fils de métal auxquels on accrochait nos seaux.
Ah oui.
Je le mets, le joug.
Est-ce qu'on mettait sur la tête des bœufs?
Oui, il y a une version pour les animaux et il y a une version pour les humains.
D'accord.
Et là, je le mets sur les épaules des jeunes et puis je leur dis, comment tu trouverais ça, toi, d'aller au puits, chercher ton eau, puis le rapporter à la cuisine à ta mère pour qu'elle puisse cuisiner. Puis là, je leur mets un peu de poids sur les épaules.
Oui.
Puis là, ils me disent, oh non, je serais capable, il n'y a rien là. Puis je leur dis, oui, mais si tu passes l'avant-midi, puis il ne faut pas que tu t'en fasses, hein, puis il ne faut pas que tu en renverses des gouttes d'eau.
Oui,
parce
c'est
que
ça.
C'est pour nourrir ta famille. Ah bien là, ils réfléchissent à vraiment à quel point nos gens travaillaient fort. Puis au confort qu'eux ont aujourd'hui.
Eh oui, c'est ça. À l'habitude de tout avoir facilement, ce qui fait que on se retrouve, on n'a plus idée de ce qui s'est passé, de ce qui s'est fait. C'est en ça que c'est formidable.
Mm-hmm.
Ça dure combien de temps?
Une heure, parce que autant pour les personnes âgées, à passer une heure, là, ils commencent à être fatigués.
D'accord.
Puis autant quand on arrive avec les écoles. Puis pour les plus petits, l'exemple, les petits de 4 ans, quand ça fait 35 minutes, là, je vois là, que les jambes commencent à bouger. Là,
attention.
Sinon, 45 à 50 minutes là, pour les élèves du primaire, c'est le temps d'une période d'école, en fait, là, d'une période de classe normale.
Oui.
Quand les jambes commencent à bouger, c'est le temps d'aller leur faire chercher de l'eau, justement.
Oui, c'est ça.
Leur mettre le joue sur les épaules. C'est quand même... J'ai vu que vous aviez interviewé une madame de 104 ans.
Oui, madame Thérèse, là, elle est décédée à l'automne dernier.
D'accord.
Mais avec elle, là, c'était vraiment... c'était une de mes plus grandes participantes. D'ailleurs, j'ai sa photo dans mon bureau. Puis elle avait plein d'anecdotes. Elle était vraiment vive d'esprit. C'est elle qui embarquait le plus dans tous nos ateliers, parce que j'en ai fait plusieurs avec elle. Puis elle me disait... Tu diras aux jeunes, quand tu vas aller dans les écoles, que Mme Thérèse, elle a 104 ans puis qu'elle est en pleine forme. Je veux que tu leur dises. Mais j'allais dans les écoles puis je leur disais ça, puis les gens étaient comme 104 ans! Hein, oui. Elle a tellement fait de choses, elle a connu tellement.
Ben oui.
Puis après ça, mais c'est parce que ça incite les jeunes à dire « Ah, ben je vais aller questionner ma grand-mère parce que j'ai vu qu'elle avait un objet comme ça chez elle, puis je vais lui en demander un peu plus, voir. » Alors, c'est là le lien que je veux créer entre les jeunes et les aînés.
Est-ce que vous avez des artefacts qui sont propres à Charlevoix?
Je vous dirais que c'est beaucoup l'histoire du Québec en général, là, parce que ça se ressemble beaucoup. Après ça, c'est parce que je vais présenter un artefact et là, va découler un exemple, la soupe à la gourgane.
Mm-hmm.
Bon, ben, c'est plus typique de Charlevoix. Donc, si je présente quelque chose et que je leur parle d'une recette, là, ils vont plus m'en parler parce que la gourgane à Montréal, je pense pas qu'il y en ait. Ou bien du cipote au bleuet, des recettes, du pâté au beluet. Ça, on en a parlé. Je pense pas que chez vous, les gens disent ça. Mais un artefact particulier à la région, je vous dirais que c'est vraiment plus de l'histoire du Québec en général.
Mm-hmm.
Alors, comment on peut assister à ça?
Donc là, nous, c'est les CIUS qui nous contactent ou les organismes communautaires qui nous contactent. On voit avec eux là parce qu'il y a un prix, mais qui est vraiment minime. Là, limite, c'est pour payer mon essence pour me rendre. Là.
Oui.
C'est ça. C'est parce que nous, on a des fondations, on a des subventions, puis ça fait partie de notre mission d'aller faire de l'éducation auprès des gens.
D'accord.
Alors, puis en même temps, on a fait ça. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se rendre au musée au niveau physique pour les capacités. Et pour les écoles, on me disait que le transport scolaire ici, étant donné que la région elle est très grande, juste prendre l'autobus pour se rendre ici, c'est une histoire de 400 $ de juste prendre l'autobus.
Ah oui.
Alors, ça leur coûtait beaucoup trop cher. Donc, moi, quand j'y vais, c'est environ 150 $ dans une école.
D'accord.
Alors, ils sauvent des frais. Donc, les écoles nous contactent. Là. Nous, on y va quand même souvent. Bien, c'est moi qui fais les activités. Et exemple, la semaine prochaine, toute la semaine, je suis dans les CIUS de la Malbaie, Clermont, Saint-Siméon et l'île aux Coudres.
Ben écoutez, Marie, vraiment, bravo. Marie Lapointe, Musée de Charlevoix, bravo pour ce que vous faites. C'est absolument génial et très intéressant.
Ben, j'espère juste donner l'idée à d'autres organismes comme nous de faire des projets intergénérationnels. C'est okay. Vraiment plaisant pour tout le monde.
Eh bien, merci beaucoup à vous de nous avoir parlé, en tout cas. C'est un
merci
plaisir.
Beaucoup.
Au revoir. Donc, on part en musique avec Félix Diot qui nous chante Diapason.
Un filet de dentelle qui traverse le ciel. Nous marchons au hasard. La ville t'accapare et tu te dis tout bas. Je vivrai loin là-bas, soumise au paysage. Des saisons de passage aux tristes vanités. Comment as-tu élevé devant toi suffocant?
La chanson Diapason de Félix Diot.
Et maintenant, nous sommes avec Philippe Ducrot. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, on t'a annoncé, mais je le redis, donc dramaturge, auteur, metteur en scène, acteur, photographe, ex-directeur artistique d'Espace Libre.
Oui.
J'ai rien oublié?
Non, mais photographe, surtout auteur, metteur en scène,
ouais,
c'est ça que je fais.
D'accord. Donc on va parler de la pièce de théâtre qui a commencé hier, Chambre
oui.
d'écho.
Oui, oui.
Qui se passe donc à l'Espace Libre. Et sur Chambre d'écho, j'ai cherché un petit peu ce que ça voulait dire.
Oui.
Et j'ai lu Chambre d'écho est une description métaphorique d'une situation dans laquelle l'information, les idées ou les croyances sont amplifiées ou renforcées par la communication et la répétition dans un système défini. Donc, pas de remise en question et les points de vue opposés sont censurés ou sous-représentés.
Oui, oui, c'est un phénomène qui est médiatique et qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux.
Oui.
C'est à vrai dire, c'est créé par les réseaux sociaux. On se retrouve à cause des algorithmes à avoir juste sur nos statuts Facebook, entre autres, juste des gens qui pensent comme nous. Et de plus en plus, étant donné que tout le monde pense comme nous, bien, la parole se libère et nos pensées se polarisent. Et tous ceux qui ne pensent pas comme nous, tout à coup, on les cancelle, etc. Et donc, la pièce Chambre d'écho fait référence à ces phénomènes-là, entre autres dans la dualité entre l'Orient et l'Occident, entre l'Nord et le Sud du monde, dans les guerres au Moyen-Orient, la guerre contre le terrorisme.
C'est ça, puis on n'entend qu'une partie d'information.
Ouais.
Et on n'a pas suffisamment, enfin je dis on parce que c'est beaucoup de gens aussi, on n'a pas suffisamment d'idées pour aller faire des recherches extérieures à ce qu'on entend.
Mais c'est qu'on veut avoir des choses qui nous réconfortent. C'est ça, c'est pour ça que les algorithmes, entre autres de Facebook, sont organisés comme ça.
Oui.
Et donc, on veut que des gens aiment, qu'ils likent nos statuts. Et donc, ça nous réconforte dans nos pensées. On ne veut pas être confronté dans nos idées. Or, des fois, il faut sortir de ces chambres-là parce que ça polarise, puis parce que ça peut mener à des menaces à la démocratie. On se met à plus faire confiance aux médias traditionnels et à l'information. Et tout à coup, des trucs comme l'élection, l'assaut du Capitole aux États-Unis peuvent avoir lieu à cause d'un phénomène de chambre d'écho. Toutes les théories de conspiration sont très, très, très amplifiées dans ces phénomènes de chambre d'écho-là.
Et encourager
alors,
aussi.
Et encourager, ouais. Oui, complètement.
Alors donc, Chambre d'écho, la pièce de théâtre, c'est suite à une résidence d'écriture que tu as fait en Syrie en 2004,
ouais.
Où tu as écrit l'affiche,
ouais.
Pièce qui a été jouée en 2009, sur l'occupation de la Palestine. Et là, tu es retourné donc en 2019.
Oui, en 2019, j'ai pris mon sac à dos. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2004, j'ai écrit une pièce qui s'appelle l'affiche sur l'occupation de la Palestine. En 2006, je suis retourné en Syrie parce que cette pièce-là a été jouée en tournée à Damas,
d'accord.
Mais aussi en tournée en Syrie. J'ai rencontré, lors de ces deux voyages-là, plein de gens. J'ai créé des amitiés très fortes, très rapidement. C'était facile, c'était des moments très, très riches et très
intense.
Galvanisants, très intenses. Et là, en 2011, la guerre a commencé, 2011-2012. Ils ont tous quitté, sauf une qu'on appelle Samia dans la pièce, avec qui j'ai entretenu une correspondance assez profonde lors des périodes où elle était en crise parce que la guerre était très, très, très intense. Et en 2019, quand la guerre, elle vit à Damas. Et donc, quand la guerre s'est retrouvée dans la zone, dans la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie, j'ai pris mon sac à dos et je me suis dirigé vers elle. Et pour y arriver, il a fallu que je passe par le Liban, étant donné que l'ambassade syrienne la plus proche de Montréal est à La Havane, à Cuba.
Ah oui.
Parce que tout est fermé. Là. On parle encore de chambre d'écho, là, il y a des axes.
Oui.
Et nous, on est dans un axe autre que celui de la Syrie, donc c'est très difficile de se rendre. Alors, il fallait que je passe par le Liban. Et c'est
d'accord.
Ce voyage-là que Chambre d'écho raconte ce voyage-là. Et comme notre correspondance à Samia et moi a été faite sur les réseaux sociaux, et comme les printemps arabes ont été déclenchés aussi par le bris du monopole de l'information sur les dictatures à travers les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui ont cassé ce monopole-là. Donc, de dire, elle vit dans son monde, moi je vis dans le mien, on est dans nos chambres d'écho, comment on fait pour briser cette chambre d'écho-là et se rencontrer? C'est ça le projet de Chambre d'écho, de la pièce Chambre d'écho.
Ah oui. Et puis d'apprendre de l'autre, de se mettre d'autres lunettes et d'avoir une ouverture différente, de regarder autrement, on va dire. Quoi.
Et de lire le monde avec d'autres, avec d'autres lunettes, comme vous dites. Ça me semble important, ça me semble crucial en ce moment de vraiment ouvrir nos perspectives, nos ornières pour pouvoir essayer d'analyser le monde dans toute sa complexité. Parce que ce phénomène-là de chambre d'écho simplifie. Toute information, toute situation devient simplifiée et là, on n'a plus de place pour...
C'est comme rétréci.
Ouais.
Et c'est là où il faut aller faire des recherches à l'extérieur de cette petite ligne.
Mais ça me semble important, ça me semble crucial parce que d'un côté, ça a fait un appel à la démocratie dans les dictatures parce que ça a brisé le monopole de l'information, mais chez nous, c'est une menace. Donc moi, c'est ce parallèle-là. C'est-à-dire, chez nous, en Occident... ce phénomène-là des réseaux sociaux, cette grande révolution médiatique qui a eu lieu à travers les réseaux sociaux, menace la démocratie. On le voit à travers, entre autres, je trouve que l'exemple le plus criant, c'est l'élection de Donald Trump, mais on le voit aussi dans tous les débats qu'on a eus dans les dernières années où les gens sont complètement polarisés. Et toute la nuance, la complexité, la zone grise est évacuée. C'est comme si on n'avait plus le droit d'être dans une zone grise. On se fait tout de suite canceller. Et ça fait partie du phénomène de chambre d'écho.
Oui, c'est comme, j'ai aussi ce sentiment-là que ça rétrécit notre possibilité de réfléchir et de...
Oui, pas ça.
Elle est en rétraction, un petit peu.
Voilà, mais moi je parle beaucoup du 140 caractères de Twitter. Donc, les informations se doivent d'être très, très, très courtes. Et nous, les artistes, et quand on fait des entrevues comme on fait avec vous en ce moment, des entrevues de fond, ça nous permet de complexifier la pensée. Et je crois que c'est important de ramener... l'exercice mental de la pensée complexe.
Oui.
Et je crois que réunir les gens dans une pièce pendant une heure et demie, comme on le fait avec Chambre d'écho, pour ouvrir le spectre des possibles, me semble un salutaire à notre époque.
Oui. Ça a commencé hier, alors.
Oui, 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 c'était la première hier. On joue jusqu'au 4 mars, on fait 15 représentations. Oui. Il y a déjà des soirs qui sont complets, alors il faut acheter nos billets rapidement.
Je suis pas encore allé la voir, mais moi, je vais aller la voir le jour où il y a la discussion.
Oui, le 21 février,
le 21 février.
Oui, ouais, avec une table ronde.
Voilà. Ah oui, parce que c'est intéressant de regarder, d'assister à cette pièce et... Après d'avoir la discussion autour,
Oui, et il y a Marie-Joëlle Zahar, qui est une Libanaise, qui est une politicologue très, très, une sommité dans toutes les relations géopolitiques mondiales, qui va être à la table ronde. Et sa nièce, Marion Zahar, qui elle aussi est une politicologue, mais elle est au doctorat. Et c'est deux Libanais, donc ça va être, c'est très appris. Ils connaissent très, très, très bien cette région-là. Ils ont un vécu très profond de la situation. Je pense que ça va être passionnant.
Est-ce que c'est vous qui les avez choisis pour la discussion?
Marie-Joëlle Zahar, c'est une amie que j'ai rencontrée à travers tout le projet qu'on a fait sur l'occupation de la Palestine. On l'a rencontrée comme ça. Et au fil, étant donné que moi, mon travail est assez basé sur la géopolitique puis sur le décoloniser l'art, décoloniser nos rapports humains, on est devenus amis. Donc, je trouvais que c'était vraiment très, très, très pertinent. Je crois qu'elle va être brassée pourtant parce que c'est une région du monde auquel elle est très attachée.
Et qui brasse encore.
On parle de 41 000 morts. Là, suite au, le fait de brasser est un bon terme.
Oui, non, c'était involontaire. C'était de ce côté-là.
Ça a brassé fort. Puis là, j'écoutais la radio en m'en venant. Puis on est rendu à 41 000 morts là, dans les séismes qu'il y a eu en Turquie puis en Syrie. Mais quand toutes les infrastructures ont été démolies par la guerre et quand, à cause justement de ces chambres d'écho-là entre l'Occident et l'Orient, l'aide humanitaire ne se rend plus à destination, mais là, c'est sûr que il y a encore des drames humains énormes, des gens innocents qui se retrouvent encore sous les débris de ces conflits internationaux-là.
Oui. C'est vraiment énorme. Non, mais je savais que ça allait être passionnant, cette entrevue. Même si on n'a pas le temps de poser toutes les questions que je veux, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on en parle. On va faire une pause, Philippe, et 2 minutes, et puis on se retrouvera tout de suite après ça. Et après, quand on revient, j'aimerais savoir, parce que quand j'ai lu des choses, et j'ai lu que sur les gens qui... les personnes croisées là-bas en Syrie, les gens parlent différemment s'ils s'adressent à l'artiste plutôt qu'au journaliste. Alors, je ne veux pas de réponse immédiatement,
non.
On en parlera après.
On en parlera
mais ça m'a interpellée, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ils doivent se sentir plus libres. Parler à un artiste, ce n'est pas la même chose. Mais
pas
un mot, Philippe, pas un mot. On revient. À tout de suite.
Après la pause.
Vous écoutez Le Pied dans la Porte avec Arlette Farah.
Il y a des jours où le soleil vient à se lever plus haut. Aujourd'hui, c'était une journée comme celle-là. T'es couché sur le dos, les autres dansaient. J'étais rempli d'être là avec vous, une place au soleil. Avec toi dans le monde, avec vous dans ma voix, on parlera d'un toi dans le monde, moi j'arrive à être moi, c'est qu'on n'est plus jamais les mêmes. Après des moments comme ceux-là, je me suis senti être chez moi, dans ce que tu disais. Quoi quoi de mieux que tes lèvres pour me prononcer? De tes mots comme arrosoir, on s'est fait pleurer. Tu as semé dans ma vie, dans mes jours, une place au soleil. Avec toi dans le monde, avec vous dans ma voix, on parlera d'un amour qui reste. Avec toi dans le monde, moi j'arrive à être moi. Mais c'est beau de se revoir être ensemble.
Alors, on vient d'écouter Étienne Copé qui nous chantait « Avec toi dans le monde ». Voilà, « Avec toi dans le monde ».
Voilà.
C'est ça, Philippe. Donc, on parlait juste avant. Alors, je dois dire que c'est dans l'entrevue que tu as fait avec Le Devoir que j'ai lu des choses en lisant. Ça m'a interpellée et j'ai voulu y revenir dessus avec toi. Donc, tu disais aussi que les gens parlent différemment s'ils s'adressent à l'artiste plutôt qu'au journaliste.
Mais mon travail est très axé sur la géopolitique. Ma compagnie s'appelle Hôtel Motel. Moi, j'ai décidé de sortir un peu le spectateur québécois de ses cuisines et d'aller vers le monde, d'ouvrir vers le monde. Puis on me demande souvent pourquoi je ne suis pas journaliste, pourquoi et c'est une question qui m'étonne toujours. Quand on fait, en tant qu'artiste, qu'on approche ce genre de travail-là en tant qu'artiste, on a une autre voix, il y a une autre manière d'approcher les gens.
Oui.
Et c'est très, très clair. Quand je voyage, la première fois que j'ai vécu ça, c'était en Bosnie, mais je l'ai vécu très, très, très fortement en Palestine ou en République démocratique du Congo. Les gens me demandent pour quel média je travaille ou pour quel organisme non gouvernemental je travaille. Puis je dis non, moi, je suis un artiste. Et tout à coup, je vois vraiment une lumière qui apparaît, qui est différente dans leur œil. Et il y a comme une certaine confiance de parler.
Comme
pas
un
juste...
soulagement.
Ben
non,
oui, mais, à vrai dire, ils vont dire autre chose. Ils parleront pas c'est pas une approche très factuelle. C'est plus une approche humaine des enjeux qu'ils vivent, de l'émotion. Et moi, en tant qu'artiste, je suis comme une éponge de ces émotions-là, de ce vécu-là. Et parce que c'est l'humain derrière tous ces chiffres-là, toutes ces statistiques-là qui m'intéressent. Et c'est un peu ce que je crois que je peux faire, nous. Ce que nous, les artistes, on peut faire, c'est mettre un visage sur ces statistiques-là, mettre un visage sur l'invisible. Nous, l'art, on peut faire ça. On peut faire apparaître. Il y a quelque chose de magique dans l'art. On peut faire apparaître des choses par la métaphore, par la confrontation des symboles, des images, par la poésie, on peut faire apparaître des choses, on peut toucher différemment que juste purement par l'intellectuel, par le rationnel. Et j'y crois beaucoup à cet apport-là à la société de l'artiste. Je crois qu'on a ce rôle-là, nous, à jouer. C'est pas le seul rôle de l'art, mais je crois que c'est un rôle qui me semble important et qui, effectivement, soulage. Les gens ont l'impression d'être entendus quand ils parlent à un artiste. Alors, j'espère J'espère que je traduis bien ce qu'ils vivent. Là.
Ben, regarde, ça m'amène à une autre question que celle que j'allais te poser tout de suite. C'est justement, comme tu en es le metteur en scène, qu'est-ce qu'on retrouve sur scène de ça? Qu'est-ce que tu as voulu mettre pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé?
Ben, étant donné que le phénomène, c'est que je parle de la guerre contre le terrorisme, je parle de tout ce débalancement-là, parce que ce qui est important aussi, c'est pas juste de parler de là-bas, c'est de parler de notre lien avec là-bas.
Oui.
Donc, c'est le phénomène
notre vision.
Notre vision, mais aussi est-ce que tout ce qui s'est passé en Syrie et tout ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre en Irak aussi, ou les événements en Iran qui ont lieu actuellement, est-ce que c'est si loin que ça de nous? Et moi, je crois que c'est moins loin qu'on le pense. Je crois qu'on a des liens directs. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et il y a 2 millions de morts depuis le début des actions, depuis la première guerre du Golfe, qui sont liées à l'ingérence étrangère de l'Occident au Moyen-Orient. Juste en Irak, c'est 2 millions de morts. Donc oui, il y a des liens à tisser. Donc moi, ce phénomène-là me semble important. Donc j'ai voulu exprimer ça, et je l'exprime à travers tous ces concepts-là dans Chambre d'écho. Nous, on est bloqué. Donc, c'est un spectacle qui est très médiatique. Il y a des télévisions sur scène, il y a des projections vidéo. On représente cette chambre d'écho-là. Il y a même l'utilisation du téléphone intelligent comme de manière artistique, comme caméra pour filmer des comédiens. Il y a tout un phénomène de live feed sur scène, de représentation. Toute la technologie est très au cœur du propos. Et je crois que se dégage une certaine poésie de cette technologie-là. Et comme le sujet est très, très, très dur, j'ai travaillé très fort avec toute mon équipe de concepteurs, la scénographe, l'éclairagiste, le vidéaste, le musicien, pour créer un environnement très, très poétique, très, très prenant, très enveloppant, pour nous accompagner dans ce voyage-là qui, soyons honnêtes, n'est pas toujours facile, mais qui me semble être essentiel. Et au bout de la ligne, j'ai l'impression qu'on en sort grandi et qu'on trouve l'espoir à travers ce voyage-là.
Ouf!
Ben oui, c'est
alors,
ça.
Le mot espoir me réveille. Ça me redonne du peps. Dans ce que j'ai retiré aussi de tes réponses, c'était ce que tu as dit, c'est le monde est beaucoup plus fait de vases communicants que ce que l'on prétend.
Oui.
Et je pense que nous devons ouvrir nos œillères là-dessus.
Ben oui, c'est un peu ce que je disais, on a des liens avec le Moyen-Orient, mais quand j'ai écrit ma pièce sur l'occupation de la Palestine, ça s'est très bien passé, mais les gens me demandaient pourquoi j'étais intéressé à ce qui se passait à l'autre bout du monde, avec Israël, avec la Palestine. Les gens me posaient cette question-là, puis je disais, oui, mais c'est relié. Et donc, je suis allé en République démocratique du Congo pour parler, il y a au Congo actuellement un conflit qui dure depuis 1994, qui est le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est 6 millions de morts, et c'est un conflit qui est directement lié à l'industrie minière. Donc, les différentes milices prennent possession de certains territoires et pour avoir de la liquidité pour acheter des armes, ils vendent à rabais le sous-sol de ces territoires-là à des compagnies minières. Or, le Canada est un paradis légal pour l'industrie minière et 70% de l'industrie minière mondiale est basée au Canada à travers la Bourse de Toronto ou à travers leurs sièges sociaux. Et donc, on se retrouve à être directement impliqués, nous, dans le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais on a toujours ce narratif-là qui fait du Canada un pays neutre, un pays de paix.
Oui, c'est vrai.
Et pourtant, on est directement relié au conflit le plus meurtrier et on est un des principaux joueurs de ce conflit-là. Mais on n'en parle pas. Donc, moi, je crois qu'il faut... Ça, encore une fois, c'est un phénomène de chambre d'écho. On est coincé dans notre vision du monde. On n'ouvre pas nos ornières, on n'ouvre pas les fenêtres de notre chambre d'écho pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière et comment d'autres peuvent percevoir qui nous sommes et comment d'autres peuvent lire le monde. Et ça me semble, le monde va de moins en moins bien. Oui. Ça me semble urgent de faire ce geste-là, de se réfléchir à qu'est-ce qui se passe actuellement. Tous les enjeux liés à l'immigration actuellement qui ont eu lieu aux dernières élections ne sont pas banals. En 1989, quand le mur de Berlin est tombé, il y avait 15 millions de migrants sur les rues. Après ça, on pensait que Fukushima avait dit que c'était la fin de l'histoire, tout allait bien aller, le progrès allait avancer. Or, au début des années 2000, on était rendu à 50 millions. En 2020, on était rendu à 80 millions, puis on est rendu à 100 millions de migrants sur les rues. Il y a un mouvement migratoire important lié à l'écho de ces colonialismes-là et de ces interventions-là, et que ce soit le néocolonialisme ou de cette position que prend l'Occident sur le reste du monde. C'est eux qui viennent cogner à nos portes. Et nous, ils veulent leur part du gâteau, et je les comprends. Il faut partager. Et pour ça, ben, il faut réaliser le concept des vases communicants qui est à l'interne de nos modes de vie.
Ben, si c'est argent, je ramasse tout pour moi, le partage, il est déjà...
Ben, c'est un peu difficile,
Il est un peu difficile dans ces cas-là. Philippe, on arrive un petit peu à la fin de l'entrevue, même si j'aurais souhaité continuer 2 heures comme ça avec toi pour t'écouter parler.
Bon, voilà.
Donc, faut aller voir la pièce.
Ben oui, c'est ça, venez
voir la
pièce.
La pièce.
Ce soir, il y a une table, il y a une discussion avec le public. Donc on,
ah, ce soir aussi, moi, j'ai vu que le 21.
Le 21, c'est une table ronde avec des spécialistes. Oui, voilà. Ce soir, c'est juste nous, les artistes, avec le directeur artistique actuel du théâtre, avec Antoine Boutin, et on parle directement. Après la représentation, le public est invité à rester dans la salle pour qu'on puisse discuter avec les comédiens. J'y serai aussi, avec les concepteurs, pour qu'on puisse réfléchir à ça et continuer cette réflexion-là. C'est ce qu'on appelle en français un debrief me semble important.
ça sera bien. On dit juste un petit mot sur les comédiens?
Oui, ben c'est Mounia Zazam et Étienne Pilon. Étienne Pilon, c'est un type qui jouait, avec qui j'ai travaillé quand même à quelques reprises. Il jouait dans le spectacle Affiche sur l'occupation de la Palestine. Et Mounia Zazam a joué dans mon dernier projet aussi, un déambulatoire que j'ai fait à partir de photographies sur les migrants, sur les murs, sur les frontières, etc. Mounia, qui est d'origine algérienne, qui porte elle-même toutes les années sombres des années 90 de l'Algérie, qui a vécu ça un peu... De manière assez frontale, et qui donc est concerné émotivement, un bagage émotif qui est lié à la thématique. Et je trouve que ça apparaît sur scène. Voilà.
Donc c'est bien, ça se joue jusqu'au 4 mars.
Oui.
C'est voilà. Ça. Ça a commencé donc hier.
Il reste 14 représentations.
Il reste 14 représentations, alors précipitez-vous.
Et on part en tournée, on a déjà des dates en France.
C'est vrai?
Oui, ben on est déjà, on s'en va faire un espèce de showcase à Paris. Nos spectacles tournent beaucoup, donc... Et ça se remplit.
C'est bien.
Oui, ça, c'est très bien. La date du 21 février, la table ronde, oui. De prime abord, je crois qu'elle est complète.
Ah, quelle est...
Bon. Mais on va vous trouver des places. On peut essayer de trouver des places. Mais s'il y a encore du monde qui veut...
C'est celle-ci qui m'intéressait. Enfin, ça m'intéresse de la voir, mais j'avais envie d'entendre cette table ronde à
mais
côté
je pense que
pour
ça vaut
continuer
la peine.
À augmenter le...
Mais après ça, même quand les représentations sont complètes, il y a toujours... Il y a moyen, il y a des gens qui ne se présentent pas, il y a moyen de...
Je ne baisse pas les bras.
Il ne faut pas baisser les bras, non.
Okay.
J'espère t'y voir.
Ben oui, parce que je veux vraiment voir ça, mais j'avais envie de voir avec tout ce qu'il y a aussi derrière. Voilà. En tout cas, juste 30 secondes, comment ça, les réactions hier?
Ben, les gens sont très ébranlés par la représentation, sont très touchés, mais on parle beaucoup. Moi, j'étais inquiet de la charge du spectacle, mais on me dit que la charge est bien posée et donc le voyage se fait quand même d'une manière, il y a une certaine douceur à ce voyage-là. Et je crois qu'on parle beaucoup d'une prise de parole essentielle.
Donc, d'accord. Alors, merci à toi.
Merci à toi.
Donc là, on va écouter Louise Attaque pour La Frousse. Et après, c'est Mathieu Tessier qui sera là pour sa chronique. Est-ce que tu restes avec nous ou est-ce que tu dois partir?
Malheureusement, je dois partir.
Tu dois partir. Alors, on te dit au revoir. On te souhaite plein de bonnes choses. Mout Cambronne pour tout le reste. Et puis, vraiment belle continuation. Bravo pour tout ce que tu fais.
Merci.
On écoute
merci,
Louise Attaque.
Tu veux marcher, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux parler, tu veux crier, on ne comprendra rien. Tu veux chercher, tu ne trouveras point. Tu voudrais t'envoler et buter les chemins. Donner aux autres, il n'y aura pas de moi. J'ai la force du moindre petit retard de dire bonjour, au revoir. La frousse de t'embrasser ce soir, de ne plus sauter dans les flaques, l'espoir de perdre le fil détaché, de vivre à côté que tout soit gâché. La frousse de faire le moindre mètre, sans aimer empêcher disparaître. La frousse du moindre petit mot, celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la fosse. Tu veux voguer, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux crier ou chuchoter, on ne comprendra rien. Tu veux trouver, tu ne chercheras point. J'ai la force de voir ce qu'il faut voir. Combien le jour quand t'arrives le soir. La force de me réveiller dans le noir. De ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. La frousse du moindre petit geste. D'être empêché, remplacé, disparaître.
la rose, la moindre rencontre, d'être celui qui est pour, qui est contre. La rose, la moindre goutte d'eau, qui arrive de la mer, du ciel, oui, d'en haut. Je crois qu'on ressent tous les secousses, en fait je crois qu'on a toujours la frousse. Je ne les comprends pas. Je regarde en l'air, je regarde les toits, et je m'imagine juste tout près de toi. Si la frousse me fond dans le brouillard du moindre détour des autres, du hasard, la frousse te perd la mémoire, de ne plus courir sous la pluie dans le square. La frousse, le moindre petit moi, celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses, en fait je crois qu'on a toujours la frousse.
Alors nous voici maintenant avec Mathieu
Mon Dieu, tu es devenue sérieuse tout d'un coup.
Mathieu Tessier pour sa chronique Accroche ta tuque.
Accroche ta tuque. Arlette, on est rendu à l'expression, en fait, 199.
Alors, repréciser pour ceux qui arriveraient qui ne te connaissent pas encore.
Je m'appelle Mathieu Tessier.
Cherche à me perdre en me proposant, comment dirais-je, sur une expression québécoise. Il cherche à noyer le poisson avec trois jeux de réponses qui sont vraiment, vous allez entendre. Et à travers ça, je dois réussir.
En fait, j'essaie de t'apprendre les expressions et de oui. mêler les Québécois.
Oui, de mêler les Québécois, voilà. Et aussi de me noyer sous un flot de mots où j'ai du mal à reconnaître le faux du vrai.
Alors, l'expression 1999, non, c'est pas vrai. 199, à cause tu fais simple de même, c'est souvent une question. Est-ce trois choix de réponse? Est-ce la première, le premier choix? L'incompréhensible, l'académique, que dis-je, le double dédaléen d'une expression beaucoup plus fuviale qu'il n'y paraît de prime abord, qui demande aux employés d'une agence de recouvrement de bien vouloir transporter eux-mêmes leurs moufles de Fantex lorsqu'ils doivent se rendre chez un crottable de notable afin de ne pas salir l'ivoire et les artefacts empruntés au peuple conquis par sauvegarde. Ou est-ce deux, dans le jargon vernaculaire propre aux indécis et aux pleutres sans cause, à cause tu fais simple de même, fait référence à l'invention de la stupidité. Ainsi, pour célébrer, mais aussi pour garder vivante la tradition, chaque année que leur bon Dieu leur donne, les praticiens de cet art en perpétuel changement se demandent les uns et les autres pourquoi agissent-ils de cette façon incongrue. Il va sans dire que... Il va sans dire. Ou la troisième option, à cause tu fais simple de même, est-ce que c'est lorsqu'on est en amour avec la plus indulgente des créatures, mais que l'on redoute tout de même la fonte des méninges, il serait sage de se demander, as-tu pensé que de tourner cette fois ta langue dans ta poche ne donne pas automatiquement au chat le droit d'enseigner dans une école primaire, même si c'est une école privée? À cause tu fais simple de même.
Moi, ce que j'aime, c'est tout ce que tu as trouvé pour expliquer la 2. Elle me plaît beaucoup.
Mais c'est facile quand on la connaît. C'est pas une expression. Une autre qui je suis.
Alors, c'est quoi la réponse?
Mais si tu avais raison, c'est bien la 2.
Yeah! Ouais.
Grosse annonce, petit magasin.
Grosse annonce, petit magasin. Ouais. J'ai jamais entendu ça.
En fait, grosse annonce, petit magasin. C'est ce qu'on va entendre. Est-ce que c'est 1 ou A? J'ose espérer que vous n'êtes pas sans ignorer que les vêtements se séparent lors d'un lavage, et cela même au cycle doux, non pas par racisme, mais par écologisme. C'est du moins ce que me disait Huguette lors de mon dernier passage dans son estaminet. Ça, c'est choix numéro 1. Choix numéro 2, grosse annonce, petit magasin. Ceux qui fréquentent les sites de rencontres et qui font mine de l'avoir dans le crayon et qui prétendent à la surface, à la substance plutôt qu'à l'ignorance, qui prônent l'altruisme en guise d'amour propre et qui se pavanent ou qui pavanent leur crédit comme si le monde leur appartenait, seraient plus avisés de faire preuve d'humilité et d'honnêteté. Ou, grosse annonce, petit magasin, est-ce l'option 3, le clistère, ou l'injection pratiquée par le fondement pourrait vous donner mal à la tête. Mais Pour contrer cette affection caractérisée par la survenue d'accès répétés de céphalées d'intensité variable, accompagnée de malaise général, de nausées et de vomissements, je vous offre ce petit Molière. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoli pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Tiré du malade imaginaire. Alors, petite annonce, gros magasin.
J'aurais envie de dire encore deux.
Grosse annonce, petit magasin. Ben, franchement, tu es en forme aujourd'hui.
Je suis bonne. T'es
en feu. J'ai peut-être le temps pour une
mais
très
j'ai
rapide.
J'ai jamais entendu celle-ci d'expression.
Non.
Et on a le temps d'une troisième?
Très rapide. Se faire passer un sapin.
Faire passer un sapin.
Ouais. Mmh, est-ce que d'accord. C'est l'art de simplifier sa vie au plus compliqué? Ou est-ce l'art de compliquer sa vie en voulant tout simplifier? Ou l'art de se faire raconter des histoires?
Ben, l'art de se faire raconter des histoires. Faire passer un sapin. C'est ça? Je suis trop bonne. 3 sur 3.
Mais là,
yo.
J'ai pris la plus simple pour terminer parce que j'avais aussi...
Il est en train de me dire qu'il a pris quelque chose d'assez simple pour que je puisse gagner. Mais je n'en tiens pas compte, mesdames, messieurs. Je l'ignore.
Non.
J'ai
écoutez,
gagné. C'est
la
tout.
Prochaine, la prochaine, on va parler de rare comme de la marde de pape ou encore le mot pogné ou le verbe pogné.
D'accord. Bon, alors, je ne regarderai pas avant. De toute façon, dans un mois, je ne m'en souviendrai plus.
Il y a effectivement de grandes chances que voilà, oui.
On part en musique?
Ben oui, j'ai choisi pour terminer
oui?
L'artiste Clairel, je ne sais pas si tu le connais.
Non.
Qui chante une jolie chanson qui s'appelle Le Tour.
Alors on écoute Clairel.
Tu m'as mis le cœur en feu. Il t'a suffi d'un jour ou deux. Voilà déjà que tu fais tes adieux. En vain je recherche une trace de toi dans ces autres qui passent. Je ne peux t'oublier quoi que j'y fasse. Mais on a fait le tour, on a refait le tour, refait le tour, fait le tour de nos amours. Mais j'attendrai toujours qu'elle revienne, qu'elle revienne. Oui, on a fait le tour, on a refait le tour, refait le tour, fait le tour de nos amours. Mais j'attendrai toujours qu'elle revienne, qu'elle revienne. Tel un pèlerin en exil, à la recherche d'un domicile, je déambule dans les rues de la ville. Cette nuit ne soit qu'un mauvais rêve. Mais on a fait le tour, on a refait le tour, refait le tour, fait le tour de nos amours. Mais j'attendrai toujours qu'elle revienne, qu'elle revienne. Oui, on a fait le tour, on a refait le tour. Fais le tour de nos amours. J'attendrai toujours qu'elle revienne, qu'elle revienne.
Chanson.
C'est magnifique.
Il y a des chansons qu'on aimerait bien écouter la dernière minute encore et encore.
C'est vrai. Mais là, il faut s'arrêter parce qu'on est en fin d'émission, c'est Mathieu. Eh oui, on va dire au revoir. Alors déjà, on va remercier Marie-Lie Lapointe pour le musée sur la route, le musée de Charlevoix qui a son projet intergénérationnel. Ça, c'est formidable. Bravo pour ce que vous faites.
Est-ce qu'elle pourrait se déplacer jusqu'à Montréal, tu penses?
On lui téléphonera pour lui demander, qui sait. Et puis, on dit merci à Philippe Ducrot, quel homme passionnant, pour Chambre d'écho qui se joue à l'espace libre jusqu'au 4 mars. Donc, ça a commencé hier. Allez-y, il reste encore des places. Donc, allez-y, ne ratez pas ça. Et puis, je devrais dire au sujet de Philippe Ducrot, j'ai un petit merci différent à faire aussi. C'est à Marie-France Coallier qui est au devoir, puisque c'est grâce à son entrevue que ça a dirigé un petit peu mon questionnement sur ce qu'avait à dire Philippe. Mais il en avait tant à dire et de façon si intéressante. Donc, ne ratez pas ça. Chambre d'écho, ça s'appelle. Merci Mathieu Tessier pour ta chronique. T'essayeras la prochaine fois de me coincer. Mais j'ai eu 3 sur 3, je suis contente.
Ben oui, merci. En fait, j'ai juste eu le temps d'en faire 3. J'aurais peut-être même eu le temps d'en avoir 4, mais je me suis dit, je vais en garder pour une autre fois.
Merci pour la technique et les chansons. Et puis, on se retrouve le mois prochain, donc tu as le temps d'en réfléchir et je me souviendrai même plus de celle que tu m'as dit que tu aurais pour la prochaine fois.
Je suis certain que je pourrais redire les mêmes expressions. Et...
N'exagère non, pas, je ne perds pas la tête à ce point. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente fin de journée et puis on vous dit... moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais Mathieu aussi, puisqu'il est toujours avec nous à la technique. Donc, la semaine prochaine... Autre chroniqueur, chroniqueuse, autre invité, autre chanson. En tout cas, on espère que vous avez aimé ce qui vient de se passer. Alors, on vous laisse, on vous embrasse bien fort et puis à mercredi prochain. Au revoir.